Chapitre 4.
Nous autres, on poursuit la route vers l'objectif. Juste derrière moi, Guy chuchote des conneries à la chaîne et transforme un peu en promenade de santé notre course vers la terreur. Mais sa désinvolture me fait du bien. Elle me fait un peu oublier que c'est un fusil que je porte à l'épaule, que mes pas sont meurtriers, et que ce soir, encore une fois, c'est vers le mal qu'ils avancent. Car ce soir, nous incarnons la force brute du peuple. Cette force qui s'est réveillée, qui s'est levée, et qui, explosive aujourd'hui, a soif de demain à tout prix.
Ce soir, notre violence est nue aura de nos rêves.
Dimanche après-midi, à Mur-et-Rigné. Nous entrons au germoir d'initiative solidaire, café associatif et culturel mené par les Murs des Arts, où Thierry nous accueille avec enthousiasme et gentillesse. Nous entrons, mais le piano-vélo, lui, reste dehors. Au germoir, c'est une grande histoire de murs, de portes et de ciel.
Il est là, le mur, devant toi et moi. Il est là, c'est sûr, on les vitres à part. Tout autour de toi, tout le monde de toi. Plus aucun débat, plus aucun recours. Mais quand on se le prendra, quand tout le monde s'affolera,
ça nous arrive généralement une fois dans la tournée. Suite à un étourdissement général ou à une communication sur le fil des anges, l'information n'est pas passée. La porte du germoir est de 2 cm trop étroite pour la piano-remorque. On ne peut pas entrer. L'impossible se tient juste devant nous, et même s'il ne mesure que 2 cm, il reste infranchissable. On aurait tout de suite choisi l'option extérieure si la journée n'avait pas été pluvieuse. Il fallait qu'il pleuve, forcément. Autrement, l'histoire aurait été trop facilement résolue. On passe donc les 2 heures qui nous séparent du spectacle à arpenter le quartier du Germoir en cherchant une solution de repli. On cherche les clés de l'école d'à côté, pour se réfugier sous son préau, en vain. C'est dimanche aujourd'hui et les personnages clés de la mairie sont injoignables. On cherche partout dans les environs. On va à la crèche, à la ludothèque, mais tout est désespérément fermé. L'école de musique, elle, est ouverte, mais impossible d'y jouer. Un grand abri à poubelle, tout à fait accueillant, qui y est accolé, nous fait de l'œil. Mais il est trop petit. Le parking du Super U, lui, est bien assez grand et abrité. D'ailleurs, il est déjà occupé par un zikos solitaire sans public. C'est ce zozo-là qu'on entend. Mais le parking est un peu trop loin. Va faire porter 50 chaises aux spectateurs à pied jusque là-bas. Non. Pourquoi pas les châteaux du quartier? Je fais un tour, cherche à entrer, mais tout est désert. Personne ne répond à la cloche lorsque je sonne. Dommage. Jouer dans le salon ou la cour abritée d'un château voisin aurait été une belle sublimation de l'imprévu. On finit par effleurer l'idée de ne pas faire le spectacle, de proposer un simple échange et une discussion autour de nos créations et de notre voyage. Ça me paraît déjà être une belle animation, mais la déception de Thierry nous pousse à vouloir tenter quelque chose. C'est finalement une éclaircie dans le ciel qui nous donne l'audace. Généralement, dans ces situations, l'audace est récompensée. Le ciel nous ouvre une porte, alors on s'y jette. On choisit de jouer dehors. On compte sur une éclaircie d'une heure, juste le temps du spectacle. On installe la scène sous un petit barnum et les spectateurs sous les nuages. Il se remet à pleuvoir fort lorsque tout le monde arrive. On démarre le spectacle à l'intérieur du germoir. On étend un peu notre discours du début pour gagner du temps. Pendant la présentation, je jette à l'extérieur des regards inquiets. Avant de commencer, je n'ai pas posé la question à Philippe. Et qu'est-ce qu'on fait s'il ne s'arrête jamais de pleuvoir? ça aurait mérité d'y réfléchir avant de démarrer. Mais finalement, l'éclaircie promise arrive. Juste au bon moment. On entraîne vite tout le monde dehors. Le ciel nous accorde une trêve. On joue le spectacle. Et dès qu'on termine, la pluie se remet à tomber.
On ira parler aux gens du monde en train de naître partout où sous le vent la voix le sait à l'être. On ira clamer nos voix sur les plages.
Ce soir, on dort chez Marie-Jo. Elle habite juste à côté du Germois. On y va à pied. Thierry nous y rejoint pour partager le repas du soir. Et il nous y retrouve même le lendemain matin avec les croissants et les pains au chocolat pour le petit déjeuner.
Attends, on va t'aider.
Attends, mais je vais t'aider.
Oui.
Je vais monter mon vélo.
Oui, ça va passer à gauche. Ah, ça sent
bien. Oui. Et souvent, on va partir. Vous êtes prêts?
Oui.
Ouais.
Demain, lundi 24 mars, ce sera enfin notre premier jour de repos. Mais les vacances commencent dès ce dimanche soir chez Marie-Jo. Elles commencent au moment où on peut se laver et faire une lessive. Entre le linge sale, le linge mouillé et le linge sale et mouillé, il était grand temps d'intervenir. Quand on commence à porter des vêtements de scène pour le repas du soir ou à ne plus mettre de culotte, c'est vraiment qu'il faut laver son linge. Mais franchement, jusqu'à présent, on n'a pas eu une seule minute pour cette intendance-là. Le t-shirt orange de Philippe, qu'il a tenté de laver mercredi, n'a jamais séché. À trop global, alors qu'il était presque sec, étendu sur le vélo laissé dehors, il s'est mis à pleuvoir.
Comme vous voulez.
Honnêtement, moi, je veux bien prendre une petite douche rapide.
Oui, c'est possible.
C'est drôle de se retrouver dans la banlieue d'Angers, quartier aux maisons bien rangées, et d'avoir tant de confort juste après trop global.
Ouais, parce qu'on est minable. Ouais. Et bien,
vous montrez, là, c'est là-haut.
Vas-y un peu. Alors, attends, du coup, je traite mon sac.
C'est toute une organisation de...
Comment? Non, il y en a pas 36. Là, on touche un peu de boule.
Ce que j'aime dans cette tournée, c'est la diversité mêlée à la densité. Diversité des personnes qu'on rencontre, des habitats, des styles de vie. C'est cette richesse et cette diversité qui m'a donné en tout premier l'envie de créer un journal de voyage. Ce soir, on s'échoue chez Marie-Jo comme des enfants en naufrage chez leur mère. Elle nous bichonne. Réduit à nos fonctions vitales, on n'a plus que jamais besoin de se laver, de manger, de dormir. Ce qu'on fait chez elle à la perfection.
Donc c'est bon, je peux montrer pour la douche alors s'il trie son linge.
Ah, moi je vais trier son linge.
Oui, c'est ça. Voilà, pas la mettre.
Ah, parce que c'est au même endroit. Philippe, t'as pas trié mon linge, je comprends pas.
Ça va être bien.
Ah, merci. La douche providentielle.
Ah, je sens que...
Elle est jolie, la table, dis donc, là, du coup, là.
Tu bois pas d'alcool?
Ah, ouais. Non, peut-être pas, là.
Oui.
Pourquoi il y avait
du jus de pomme? Sinon, j'ai du jus de pomme.
Ah, c'est genre... Non, je prends de l'eau.
C'est de l'eau? Parce que qu'il y a du jus. Oui, du jus.
Thierry est photographe, mais il fait aussi de l'aide à la personne. Amateur et connaisseur de bons vins, il a amené de belles réserves ce soir. Il nous explique qu'avant, il travaillait dans la com et qu'il a changé de vie. Aujourd'hui, il est bien impliqué dans les aventures collectives locales.
Faire un peu de ménage, de rangement. Là, je suis en train de ranger pour une dame qui... Ah, bon, c'est pour éviter, justement... C'est de la personne.
Ah, d'accord. En fait.
Oui.
Je me rends compte au fil du repas que Marie-Jo et lui, finalement, ne se connaissent pas tant que ça. C'est ce soir une multiple découverte.
Un autre petit apéro.
Oh, je pense que moi, ça fait...
Celle-là, après, il y a du rouge. Thierry a porté du rouge.
Marie-Jo est joyeuse. Et son rire communicatif.
C'est le réhardi.
Bientôt, elle va déménager pour vivre dans un habitat partagé multigénérationnel. Un beau projet collectif à 12 foyers qui aura mis près de 10 ans à s'accomplir.
Oui, oui. Oui, oui. Moi, c'est facile.
Oui, oui, mais tu c'est facile.
Tous les trucs comme ça, j'adore faire, moi. Je l'ai fait ce matin.
Ça, je sais faire.
Ça, ça,
parce que toi, tu disais votre idée de votre habitat partagé, ce serait de mélanger les générations.
Oui, bah oui, c'est
le pour se regrouper.
Bah oui, parce que à un moment donné, si on est tous du même âge, on vieillit tous en même temps.
Et on galère tous en même temps.
Oui, c'est pas évident. Bon, il y en a qui l'ont fait, mais ça se passe pas trop. Ça se passe mal, pas mal.
Nul risque que l'on retienne.
Et tu disais que c'était Léon.
Ce qui déjà s'effondre. Mais pour qu'un jour elle germe les graines du nouveau monde. On sait.
Lundi, on décolle pour Chalotte-sur-Loire après le repas du midi. Marie-Jo nous aura hébergés jusqu'à ce que notre linge finisse de sécher. On s'était un peu étalé chez elle. On ramasse notre bazar, on libère son étendoir et on décolle. On pédale une trentaine de kilomètres de beau temps et de douceur jusqu'à atteindre les bords de Loire. Nous quittons l'Anjou, avant-dernier territoire de notre périple, pour nous rendre dans le pays nantais. Moi, je n'avais jamais vu la Loire en vrai. C'est drôle, on dirait que le territoire, soudain, n'est plus marqué par ces pierres, mais par l'eau, par cette immense fissure qui coule, porte et parfois emporte. C'est elle qui semble rythmer toute la vie ici, souveraine aqueuse de son royaume. Je suis frappée par la douceur qui règne dans le pays de la Loire. Douceur du climat, du relief, du paysage et aussi de la vie. Les coteaux de vigne tissent le paysage avec les prairies tendrement vallonnées et les grands arbres dispersés. La pluie des jours passés et le soleil timide et doux élèvent sur la route le parfum des fleurs du printemps, les pruneliers et autres buissons ardents qui nous accompagnent, nous autres ardents. On pose l'ancre à Chalonne-sur-Loire, au gîte des Orchis de Loire. Sur le portail d'entrée, on lit mal le « i » de Loire. On dirait que le fleuve s'écrit « Love ». J'aime imaginer que le plus grand fleuve de France coule, porte et parfois emporte de l'amour. Enfin, enfin, on arrête de courir. On vide nos tasses. Pause miraculeuse au milieu du tourbillon. Je peux enfin prendre le temps d'écrire ce journal. J'avais lâché la narration depuis vendredi et les mots qui ont couru après moi pendant tout ce tourbillon ont enfin pu me rattraper. On apprécie aussi la pause sociale. La densité des rencontres et l'attention qu'on y porte surchargent un peu le cerveau. Après 6 jours non-stop de multiples rencontres, tu commences à avoir du mal à intégrer ce qu'on te raconte. Il faut vider sa tasse pour pouvoir la remplir à nouveau.
Ah,
je me disais que tu devais faire ça.
Je viens juste de commencer.
C'est vrai? Bon. Je vais faire pipi.
Mardi 25. Après un somptueux petit-déj dans la véranda de Chantal, on quitte notre gîte et Chalonne-sur-Loire dans le brouillard. On traverse une campagne de brume. Sur la route, un nouvel arrêt photo s'impose. Devant la rue du désespoir des dames, Philippe pose avec notre drapeau CRS providentiel et en légende « Sécurité avant tout ». Le piano-vélo adhère au programme « Voisin vigilant ». Trêve de plaisanterie. Bientôt, le paysage s'assombrit. On traverse une campagne marquée par la production et l'élevage industriel. De grands hangars fermés se succèdent, entourés de grillages, surveillés par des caméras. Il s'en échappe une odeur de poule et de mort qui pique les narines. À l'intérieur, des milliers de volailles attendent la mort. Ça nous fait froid dans le dos. Ce qui est le plus dérangeant, c'est l'allure très nette de ces bâtiments et l'image qu'elle nous évoque tout de suite, celle des camps de concentration. On se demande comment on en arrive à ça. Je suis consciente de manger des animaux qui vivent et meurent dans des conditions aussi atroces. Pas pour ce que je mange chez moi, car il y a longtemps que je fais attention à la viande que j'achète, mais chaque fois que je mange du poulet au restaurant, par exemple. Sur la route, ces paysages me rendent songeuse. Je me dis que sortir de tout ça collectivement paraît être un labyrinthe bien complexe.
L'océan va, l'océan vient. Ces algues brunes tissent nos liens.
Au milieu des champs, de grands pylônes électriques surveillent le paysage, comme des sentinelles de métal aux formes animales. Hier, dans le gîte, on a regardé un dessin animé que Pierrot, notre tout premier hôte à la fabrique, nous avait conseillé, Le Chant de la Mer. Dans ce dessin animé, les grands pylônes électriques des lignes à haute tension étaient représentés par des hiboux. Je n'avais jamais remarqué qu'en réalité, ces constructions effectivement ressemblaient à des hiboux. Sous les ifs noirs qui les abritent, les hiboux se tiennent rangés, ainsi que les dieux étrangers, dardant leur œil rouge. Ils méditent. Sans remuer, ils se tiendront jusqu'à l'heure mélancolique, où poussant le soleil oblique, les ténèbres s'établiront. Leur attitude aux sages enseigne qu'il faut en ce monde qu'ils craignent le tumulte et le mouvement. L'homme ivre du nombre qui passe porte toujours le châtiment d'avoir voulu changer de place. C'est le poème Les Hiboux de Baudelaire. Le Chant de la Mer, c'est un film d'animation franco-irlandais réalisé par Tom Moore. Imprégné de magie, de beauté, et des chansons de l'océan. Il mélange les aventures d'êtres magiques issus du folklore irlandais et des histoires d'enfants, avec beaucoup de poésie. Esthétiquement, il est magnifique. Et il reste encore un peu dans nos têtes, tandis qu'on parcourt la terre meurtrie par l'industrie. C'est Nolwenn Leroy qui chante la chanson du film. Au milieu de cette étendue de l'ancien monde, il y a une oasis, le monde de Bruno. Bruno est un oiseau solitaire et social, amoureux du vivant. Ancien boulanger, faiseur de festivals, cueilleur sauvage et créateur de recettes, il a aménagé une salle pour recevoir du monde, de la culture, de l'art et du partage dans son ancien fournil. Sa maison est une bâtisse ancestrale aux allures de cabane de druide, à laquelle on accède après avoir traversé, sur un petit ponton en bois, un jardin sauvage. C'est C'est un havre de verdure et un repli pour la nature mise à mal. C'est un repère d'oiseaux, d'abeilles et d'herbes folles. À l'entrée du jardin, un panneau indique « Ici, 5000 mètres carrés sans pesticides. Ainsi, les animaux, les plantes et les êtres humains vont bien. » Dans le champ derrière la maison, il y a 3 brebis qui vivent en paix et des poules qu'on ne tue pas lorsqu'elles ne pondent plus. Bruno nous raconte avec émotion comment un de ses coqs est venu mourir de vieillesse dans ses bras. Une ruche est installée dans une alcôve de l'étage. Les abeilles y font leur maison et personne ne leur prend de miel. Bruno les laisse tranquilles.
Je suis parti une semaine dans les Pyrénées, 8 jours, je reviens. Salam alaikum. Mmh. J'ai une autre ruche pareille derrière, c'est une ruche varée. C'était 8 jours après, un nouvel essaim.
C'est la première fois que je rencontre un lieu qui est pour ainsi dire un refuge, un lieu d'accueil pour les animaux et les plantes sauvages.
Érable, tout ça c'est venu au fil du temps. Hein. Mmh. C'est vrai, comme tu dis, en 30 ans, ouais. Ça peut être long. Mettons, tu achètes une maison, ouais. Dans 30 ans j'aurai ça. Je n'ai pas du tout ça en fait. Mmh. L'essentiel c'est que ça soit reboisé. Ouais. Et la vitesse que ça peut
être. Oui, ça m'impressionne. Ça. Ouais. Je trouve que ça donne de l'espoir.
Avant de partir, j'achète à Bruno un de ses livres de recettes. Dans ce livre, on trouve des recettes qui mélangent le chocolat et les cueillettes sauvages. Moi qui aime beaucoup les deux, mais qui n'avais jamais eu l'idée de les marier, je suis tout de suite intriguée.
Dans tout un tas d'univers hyper différents les uns des autres.
On dirait une cabane de sorciers.
Une cabane de
sorciers.
Il fait beaucoup de choses avec les plantes, tu nous as dit déjà.
Ah oui, bah ouais.
Donc il y a peut-être un peu de sorcellerie dans l'air là.
Pas du tout. De ma part.
Pourtant dans son livre, au milieu des belles photos, se glissent des elfes, un titre énigmatique, grimoire chocolaté, et forcément un peu de magie, comme dans toutes les bonnes cuisines. Voilà ce qu'il écrit dans son introduction. Hier, samedi, le 1er du mois de décembre, bien décidé à aligner ces quelques lignes d'introduction, j'ai acheté un demi-litre de lait entier. Bien que je ne boive plus de lait depuis belle lurette, j'en ai besoin pour mon expérience. Je me suis couché tôt pour être en forme ce matin. 5 heures, c'est la belle heure. Une fois debout, j'allume la cheminée, présence indispensable à cette époque de l'année. Je fais chauffer le lait et j'y ajoute du cacao sans sucre ainsi que 2 carrés de chocolat à 80% de cacao. L'odeur commence à envahir la cuisine et fait revenir en moi d'autres lieux de l'enfance. Je prends un fouet pour bien mélanger le chocolat chaud, mais surtout pour y faire des petites bulles, une petite mousse dessus. Je verse ce doux breuvage dans mon bol favori, celui à carreaux blancs et orange, et vais dans la pièce où la cheminée commence à prendre ses couleurs favorites. Des tartines sont mises à griller au feu. Je m'installe à la table ronde, sur la chaise en paille. Le foyer est face à moi. Là, on y est. Vous aussi ? J'en suis sûre. Les images, les parfums, l'atmosphère viennent à vous. J'étale du beurre demi-sel sur les tartines grillées, avec le couteau de mon grand-père. Vous savez, ceux qui ont des personnages en relief dessus. L'odeur de pain grillé et du beurre qui fond dessus m'emplit les narines et me fait saliver. En l'espace de quelques secondes monte en moi un bien-être, accompagné d'une confiance absolue en ce qui va sortir, en tapant sur les touches de l'ordinateur. Je croque à pleines dents les tartines, que c'est bon, doux et chaud pour tout le corps et l'esprit. Je mange les 2 tartines tout en regardant les flammes monter au ralenti. Je prends mon bol à 2 mains, pose mes coudes sur la table, approche le bol près de mon visage et regarde les petites bulles encore présentes sur le chocolat chaud. Avec l'éclairage au-dessus de la table, chaque bulle reflète la lumière, comme un prisme la transformant en couleur de l'arc-en-ciel. J'avais déjà observé ça avant, sans m'y attarder. Mais ce matin, en avalant une gorgée et en observant à nouveau les bulles, en regardant les bulles refléter les couleurs de l'arc-en-ciel, je vois un pré. Un pré recouvert de toutes les fleurs sauvages de toutes les saisons. Je pose le bol, puis le reprends pour m'assurer que je ne rêve pas. Je me concentre sur les bulles, le pré est toujours là, avec encore plus de couleurs. Il y a des coquelicots, du pissenlit, de la chicorée sauvage, du bleuet, des soucis des champs, de la violette, de la mauve sylvestre, de la gentiane, du sureau, etc. Tout ceci dans une verdure flamboyante, sous un ciel radieux. Je reprends une petite gorgée, ne voulant pas faire disparaître trop rapidement le généreux spectacle qui m'est offert. J'y suis, je comprends. Tout est là en un seul et unique élément, la vie. Tout est présent là où on est. Où que l'on soit, quoi que l'on fasse, c'est bien ici et maintenant que ça se passe. Et pour moi aujourd'hui, c'est devant ce bol de chocolat chaud.
Il y a bien plus à redouter de l'anxiété humaine que du désordre des mouvements floraux. Pierre Yutagi, ethnobotaniste.
Quand on lui a demandé quelle était sa recette favorite à l'intérieur de ce livre de cuisine mélangeant chocolat et plantes sauvages, il nous a indiqué celle de la truite. La truite bocagère. Pour une personne, 10 minutes de cueillette, 10 minutes de cuisson. Les ingrédients. 250 g de filet de truite, 25 g de beurre doux, 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre, 1 cuillère à café de crème fraîche épaisse, 2 carrés de chocolat au lait 36% de cacao, 2 cuillères à soupe bombées de fleurs de prunelier, 2 tiges fleuries de cardamine des prés, du sel et du poivre. Faire cuire doucement le filet de truite dans une poêle avec le beurre, retirer délicatement après cuisson. Dans la poêle où il reste encore du jus de cuisson, mettez le vinaigre, puis la crème et finissez en y faisant fondre les 2 carrés de chocolat.
Il y a du chocolat partout.
Ouais, soit chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait, du cacao.
Mélangez bien et ajoutez-y une cuillère de fleurs de prunelier. Finition à l'assiette, comme sur la photo. Poisson, sauce, la dernière cuillère à soupe de fleurs de prunelier dessus et la cardamine des prés sur les côtés. Sel et poivre à disposition. Petit plat de début de printemps, tout simple mais de haute voltige gastronomique, histoire de balayer l'hiver définitivement. Le goût d'amande de la fleur de prunelier se marie très bien avec le poisson.
Là, parce que là, c'est tout un montage que j'avais fait. Parce qu'une pomme, là, on ne le voit pas, mais il y a une vitre.
D'accord,
dans un bac, à peu près. Ah,
oui. Plus communément appelé épine noire, le prunelier n'est pas à confondre comme souvent avec l'aubépine. C'est un des arbrisseaux qui fleurit en premier au printemps et n'a pas encore ses feuilles à ce moment-là, tandis que l'aubépine, qui fleurit au mois de mai, a déjà ses feuilles. Les infusions de fleurs de prunelier, assez populaires en Suisse et en Allemagne, sont un remède dépuratif, diurétique et laxatif. Avec les jeunes pousses de feuilles, on fait un excellent apéritif, appelé suivant les régions, vin d'épine ou trousse pinte.
Ouais. Tu sens qu'à l'intérieur, il se passe
quelque chose qui demande à naître.
Ouais, et le lendemain ou sans lendemain, il y a cette chose qui arrive. Enfin, c'est,
Il y avait une création en gestation, en fait. Un monstre est né en moi. Un monstre de renversement. Et pris de tout ce dont il a été privé jusqu'à maintenant. Un monstre de vie né dans la négation. Dans tout ce que ma vie a été, mais plus encore dans ce qu'elle n'a pas été. Un monstre né de tout ce que je n'ai pas vécu, plutôt que de ce que j'ai vécu. Non pas de ce que j'ai dit, mais de ce que j'ai tué. De tous ces petits non-dits contenus au-dedans. Et non des grands discours criés au-dehors. De tout ce que je n'ai pas fait, bien plus que de ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai refusé de voir. Tous ces élans que j'ai contenus, ces ressentis que j'ai réprimés, ces pensées que j'ai ignoré. Ce monstre a jailli non pas à cause de ce que j'ai voulu combattre, mais plutôt à cause de ce que j'ai accepté de supporter. Il faut avoir un peu de chaos en soi. Notre clan, le clan des monstres, n'a ni le temps, ni le pouvoir, ni le nombre. Pourtant, il faut s'y donner cœur et âme. se donner à ses rêves. Si ce n'est pas moi, si ce n'est pas nous, si ce n'est pas le clan des monstres, qui le fera? Qui se lèvera, rêvera, vivra et aimera, vraiment? Il faut avoir un peu de chaos en soi pour enfanter une étoile qui danse.
Alors on cherche qui, tu m'as dit ?
Marie-Thérèse.
Ce midi, nous arrivons dans un beau repère joyeux d'étoiles qui dansent. Après avoir quitté Limoges, l'Anjou ou peut-être le Bocage, un moment j'arrive plus à suivre la danse des territoires, notre embarcation s'échoue sur une île très spéciale, la ferme de Lofrère, à Valette, près de Nantes. Lofrère est un monde au milieu du monde, un rêve éveillé, un îlot d'amour où les voyageurs qui s'y arrêtent prennent un risque énorme, celui de ne jamais repartir. On s'y échoue comme sur une île mythologique dessinée par les dieux pour piéger les Odyssées. En ce moment, une quinzaine de personnes vivent là. Mais la démographie de l'île de Lofrère est montée jusqu'à une trentaine d'habitants. On ne peut pas vraiment parler d'habitat collectif ou de communauté, même si de fait, c'en est une, car Lofrère est avant tout une famille. La famille, dans son sens le plus lumineux.
Là, il y a eu des choses de fête.
Oui, des crépilles, des choses toujours un peu plus... Oui. Il y a même des albums photos, si vous voulez regarder, des fois. Ils sont là, la vie de Lofrère, à différentes périodes.
On arrive un peu tard pour le déjeuner dans la cour, sous un beau ciel bleu et un doux air de printemps. Un délicieux bœuf bourguignon, cuisiné par Marité, nous attend dans la marmite. La famille nous accueille comme elle sait bien le faire. Façon « Ah tiens, te voilà, t'as déjeuné ? Non ? Bah tiens, prends une chaise et assieds-toi. » Ça me rappelle un peu la vie chez moi, à la ferme de Sainte-Rose. Ici aussi, ils ont des vaches, une cinquantaine ou soixantaine, je crois. Mais ici, il y a vraiment cette particularité. C'est une grande famille. Marité et Bernard ont repris la ferme des grands-parents de Bernard. Et ce sont aujourd'hui deux de leurs filles qui ont repris le flambeau, Clémence et Solène. Elles ont grandi là, avec toute la fratrie. Marité et Bernard ont eu 6 enfants. Valentin, Benjamin, puis Mélanie. Et ensuite, ils ont eu 3 triplettes, Solène, Clémence et Pauline. Aujourd'hui, les 4 filles vivent en coloc sur la ferme. L'ambiance est joyeuse, pleine d'histoires d'enfance et de jeux. C'est la vie à la campagne dans ce qu'elle peut porter de plus lumineux. Toute l'énergie qu'il y a dans cet endroit me fait un peu penser à des histoires comme les 4 filles du docteur March ou Orgueil et préjugés. Entre les parents aux yeux brillants, aux récits amusés, à la philosophie décontractée, et cette fratrie pleine de fougue, d'énergie, de jeu et de joie, je ne vois en fait que des enfants. Des enfants au cœur grand. Des voyageurs de la vie. Des aventuriers aux racines profondes et au feuillage immense.
La vie, c'est ça, quoi. Alors, des fois, ça
peut se faire. Il y a une activité culturelle intense ici.
Mais à la fois, c'est la vie.
En ce moment, pas mal. La dernière fois, c'était quand on a fait.
Bernard répète souvent, c'est la vie. Comme ça. Un peu comme ma grand-mère au Portugal le disait. « Eh, vide !» Mais lui, il a ce sourire espiègle et cette intonation joyeuse ouverte à semer, à cueillir, à élever les belles surprises que propose le cheminement de l'existence.
Oui, c'est la vie. Ah oui, oui. Et c'est là qu'on voit la différence et qu'on on apprend, hein, de toute façon.
C'est aussi à Lofrère, ce soir-là, qu'on retrouve Adrien. Adrien du panier à sourire, qu'on avait vu à la gobe. Il se trouve qu'il a vécu ici quelques temps, lui aussi. Et il est ici comme un frère de plus dans cette fratrie.
Il
s'est perdu avec son camion à un endroit où nous, on était égarés avec nos vélos, là.
Ok.
Et il a accidentellement du coup vu notre concert.
Ouais, j'ai été attiré par la lumière.
Moi, à la base de Paris. À la base de Paris, et après, j'ai pris mes pieds, mon vélo, mon camion au fur et à mesure du temps, et j'ai vadrouillé à travers la France, en gros.
D'accord.
Et en me posant des fois à des endroits de plus en plus longuement, un peu partout à travers la France.
D'accord.
Tu peux faire un petit
volet
dedans ?
Et tu restes nomade
Non, je me sédentarise avec le temps.
Ok.
Et conseiller,
ça reste un peu. Tu te sédentarises ici ou ?
Avec le temps. Je pense que la sédentarisation, comme beaucoup de choses, passe avant toute chose par soi-même.
Ouais.
Donc il y a de plus en plus l'énergie de la sédentarisation qui est en train d'émerger, d'éclore en moi.
D'accord.
Et sous peu, ça va se
matérialiser
dans les faits.
Ouais.
Parce que là, j'étais sédentaire pendant 3 mois et des patates en Charente.
D'accord.
3 mois,
c'est déjà beaucoup.
Rendez-vous pour le petit déjeuner demain matin, vers 8h. La famille de Lofrère vous y attend autour d'une grande table familiale. Vous prendrez du thé ou du café ? Bon, vous verrez bien. Il y aura de tout, de toute façon. Vous n'étiez pas prévu ? Non, mais venez quand même, on trouvera bien une tartine à vous faire. En attendant, bonne nuit. Laissez-vous lourdement tomber dans votre lit pour que coulent doucement dans vos rêves toutes ces aventures, toutes ces rencontres. Et on se retrouve demain matin au petit déjeuner pour démarrer le chapitre 5.